Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, récit de la mobilisation des General Electric à Belfort, l'appétit des Verts réunis en Conseil fédéral à Paris, la répression à huis clos dans l'état de Rakhine en Birmanie, et puis les enjeux colossaux des élections municipales à Istanbul. Pour que Belfort et son bassin ne sombrent pas dans le marasme, pour dénoncer le cynisme des grands corps économiques et l'impuissance, voire l'indifférence de l'État, des milliers de personnes ont défilé cet après-midi et apporté ainsi leur soutien aux salariés de General Electric, ce conglomérat américain qui s'apprête à supprimer 1050 emplois en France, essentiellement à Belfort, en taillant dans les effectifs de l'ex-branche énergie d'Alstom. C'est un reportage à Belfort de Raphaël Ebenstein.
Démonstration de force réussie pour l'intersyndicale de GE, General Electric. Une foule impressionnante a défilé dans les rues de Belfort. Plus de monde qu'en septembre 2016, lorsque 5000 personnes avaient déjà marché contre le projet de fermeture du site ferroviaire d'Alstom. Défilé festif avec évidemment de la musique, beaucoup de tubes des années 80, AC/DC, Trust ou Europe entre autres sur les haut-parleurs. Beaucoup de drapeaux aux couleurs de tous les syndicats, beaucoup aussi de gilets jaunes venus se joindre au cortège et surtout beaucoup d'anonymes, d'habitants venus à la fois soutenir les salariés de GE et dénoncer les conséquences pour Belfort si le plan de suppression de 1044 postes est effectif. Pierre, retraité d'Alstom, regrette déjà le déclin industriel qui touche Belfort depuis plusieurs décennies.
Moi je suis belfortin depuis, je suis né en 47, j'ai connu Belfort dans les années 50-60, je ne reconnais plus Belfort quand je descends en voiture le long du faubourg, je ne reconnais plus rien, il n'y a plus de magasin, plus rien. Toi en train de foutre le camp et puis on est pas d'accord quoi.
Les affiches annonçant la marche avaient été placardées sur toutes les vitrines des commerçants, mais aussi sur les panneaux municipaux de la ville de Belfort. Tout le monde s'inquiète, tout le monde fait les comptes, y compris parmi les plus jeunes. Comme Arthur, il est étudiant à Belfort.
1000 emplois, c'est plus de 3000 emplois perdus. Enfin, déjà, le territoire de Belfort s'est pas mal appauvri ces dernières années, a beaucoup souffert des fermetures d'emplois, PSA, enfin, c'est vraiment une perte énorme pour ici.
En renfort des manifestants, plusieurs personnalités politiques nationales avaient fait le déplacement. Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou, encore Marie-Noël Lindemann, histoire de donner à cette journée un côté un peu historique. Béatrice, retraitée venue avec sa petite fille en poussette et un autocollant soutien aux salariés de GE collé dessus, compte bien lui expliquer plus tard le sens de cette manifestation.
Je prendrai le journal demain et je lui mettrai dans son album pour qu'elle se rappelle qu'à cette époque, on a manifesté justement pour soutenir les salariés et la ville de Belfort.
Un nom était sur de nombreuses lèvres pendant la marche, celui d'Emmanuel Macron. C'est à lui que beaucoup veulent faire appel aujourd'hui pour qu'il vienne à Belfort et fasse pression sur la direction de GE. Lui qui s'était rendu sur les lieux après la vente de la branche énergie d'Alstom au groupe américain quand il était ministre de l'économie de François Hollande.
Raphaël Ebenstein et Benjamin Chauvin. Quand les uns cherchent un second souffle, d'autres revoient leurs ambitions à la hausse. Ainsi, la France insoumise s'est-elle dotée cet après-midi d'un nouveau coordinateur en la personne d'Adrien Quatennens, député du Nord et proche de Jean-Luc Mélenchon. Adrien Quatennens qui aura pour mission d'animer, voire de réanimer la France insoumise. Les Verts, eux, qui ont brillé le 26 mai dernier lors des élections européennes, ont désormais des visées présidentielles. Et depuis peu, une chose après l'autre, une stratégie pour les municipales débattue cet après-midi en Conseil fédéral à Paris. L'eurodéputé Yannick Jadot.
Nous allons jeter toutes nos forces dans cette bataille des municipales. Pour cette échéance essentielle, nous devons rassembler tous les écologistes. Mais nous avons aussi la responsabilité aujourd'hui de porter une alternative. Alors c'est vrai qu'on n'est pas toujours confortable avec l'élection présidentielle. Mais qu'il soit clair que ce temps de l'hésitation, ce temps du doute est révolu. À toutes ces élections, nous devons désormais assumer la conquête du pouvoir. Pas pour l'occuper, pour l'exercer. Alors j'entends déjà les railleurs nous dire que nous avons le melon. Souvenez-vous, non mais souvenez-vous, nous étions les pastèques. Et aujourd'hui on aurait le melon. Quel amour de nos détracteurs pour les cucurbitacées.
Voilà des propos recueillis par Maxence Lambrec. Les Verts d'Outre-Rhin, deuxième force du pays, ont eux aussi du vent dans les voiles. Dans un pays qui tarde et peine à se libérer des griffes du charbon, plusieurs centaines de militants qui ont établi un camp climatique non loin d'une des principales exploitations du bassin rhénan ont pu pénétrer cet après-midi dans l'enceinte de l'usine. Le redoutable huis clos auquel sont soumises depuis hier, les populations de l'état de Rakhine en Birmanie, cet état où les forces de sécurité affrontent les insurgés bouddhistes de l'armée d'Arakan, cet état où l'armée a lancé en 2017 une campagne de répression meurtrière qui a conduit plus de 730 000 Rohingyas, minorités musulmanes apatrides, à fuir au Bangladesh. Rangoon a décidé hier donc de couper l'internet dans l'état de Rakhine. Correspondance de Sarah Bakaloglou.
La décision de couper Internet est jugée inquiétante selon Amnesty International dans une région où, je cite, des crimes de guerre commis par l'armée birmane ces derniers mois ont été établis. Pour l'organisation, il est nécessaire que les civils et les militants des droits de l'homme puissent partager des informations sur la situation. Une communication à présent menacée par la décision du ministère birman du Transport et des Communications, mise en œuvre vendredi soir et ce pour une durée indéterminée. L'opérateur téléphonique Telenor écrit dans un communiqué que le gouvernement a expliqué qu'Internet était utilisé pour coordonner des activités illégales et pour porter atteinte à la paix dans la région. Depuis le mois de janvier, les combats se sont intensifiés entre la guérilla de l'Arakan Army et l'armée birmane. Le 7 juin, le gouvernement a autorisé les militaires à utiliser toute la force nécessaire, dont le déploiement d'hélicoptères. Des combats qui ont fait des dizaines de victimes parmi les civils ces derniers mois et 30 000 déplacés dans le nord de l'Arakan. Une région interdite aux journalistes et aux observateurs indépendants et dont l'accès aux organisations humanitaires est extrêmement restreint.
Sarah Bakaloglou, correspondante de RFI et de France Culture en Birmanie. En Turquie, l'hyper-président prend le risque de perdre la ville qui l'a fait roi, Istanbul. Demain, nouveau scrutin municipal. Le premier en mars dernier avait conduit à la défaite du candidat de l'AKP, adoubé par Recep Tayyip Erdogan, Binali Yildirim, devancé de 13 000 voix sur 10 millions d'électeurs par Ekrem İmamoğlu, représentant le Parti Républicain du Peuple, CHP, enjeu politique, financier et idéologique énorme. Eric Biegala suit cette élection bis à Istanbul.
La municipalité d'Istanbul, c'est l'équivalent d'un petit pays. 16 millions d'habitants, 10 millions d'électeurs, la taille des Pays-Bas à peu près. Istanbul, c'est aussi un budget de 5 milliards d'euros, c'est 80 000 employés et fonctionnaires municipaux, et donc autant d'emplois. C'est encore ici, à Istanbul, qu'est collectée la moitié des taxes commerciales du pays. La ville est donc le socle sur lequel l'AKP, le parti du président Recep Tayyip Erdogan, qui contrôle Istanbul depuis 25 ans, a véritablement construit son pouvoir. Mais au-delà des prébendes que permet le contrôle d'une telle municipalité de ses finances, Istanbul est aussi ce qui permet à l'idéologie islamo-conservatrice poussée par Erdogan d'être mise en œuvre, remarque le sociologue Bülent Küçük de l'université du Bosphore.
L'argent, les ressources économiques de la ville sont distribuées au travers des fondations religieuses. Celles-ci construisent des pensionnats pour étudiants où ils sont, pour ainsi dire, rééduqués. Ils sont formés à être la génération future de la nouvelle république. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas perdre Istanbul. Ces ressources économiques permettent de créer cette nouvelle génération. En investissant dans les médias, dans les écoles, dans les pensionnats ou les universités, c'est indispensable à la mise en œuvre de ce qu'ils appellent la nouvelle république.
Lors du scrutin du 31 mars, l'AKP d'Erdogan a perdu d'autres grandes villes, comme Ankara, la capitale administrative du pays, mais Istanbul, c'était difficilement acceptable. On a donc annulé la victoire du challenger, Ekrem İmamoğlu, prétextant une sorte de vice de forme dans l'élection, mais sans en contredire le résultat. Et tous les sondages l'affirment, lors de ce second scrutin, celui de ce dimanche, l'AKP d'Erdogan devrait à nouveau être battu et perdre cette fois définitivement la mairie d'Istanbul.
L'immeuble où s'est déclaré l'incendie mortel ce matin dans le 11e arrondissement de Paris n'est pas vétuste, assure la maire de Paris, Anne Hidalgo. Trois morts, une personne grièvement blessée rue de Nemours au petit matin. Un épisode de canicule s'annonce sur la France dès lundi avec des températures qui devraient flirter les 40 degrés dans plusieurs régions et une inquiétude pour les personnes les plus vulnérables comme les personnes âgées. Pascal Chanvert, président de l'association des directeurs au service des personnes âgées, rappelle que les pouvoirs publics n'ont pas tiré les leçons de la canicule de 2003 qui avait fait 15 000 morts et selon lui, les établissements ou encore les services à domicile ne sont pas préparés à cette nouvelle vague de chaleur. Chaleur qui commencera à s'installer dès demain sur une grande partie du pays avec des maximales qui grimpent pour atteindre 23 à 28 degrés près des côtes, 27 à 31 degrés sur une grande partie du pays pour frôler les 35. 5 degrés sur le sud-ouest. Cette édition a été préparée avec Brice Garcia, la technique Anthony Thomasson.